Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Ça va, Laurent ?
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. C'est un endroit particulier ce soir.
Oui. On n'est pas tout seul.
On n'est pas dans les studios, on n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul, on est bien accueilli.
Très bien accueilli.
Il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit aussi. On est à l'ouverture des 28e rencontres internationales Traverse de Toulouse. Nous sommes en direct depuis l'ancien réservoir Guimery. Et avec nous, il y a Xavier Pinel. Bonsoir Xavier.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Xavier. Xavier Pinel, vous faites partie des gens qui organisent, sous la houlette de Simone Dompère, la directrice artistique de la manifestation, vous organisez ces rencontres qui ont lieu depuis, à partir d'aujourd'hui, pardon, jusqu'au 31 mars. Alors, qu'est-ce que c'est, Traverse Vidéo ? L'art expérimental, en fait, c'est quoi ?
Alors,
c'est compliqué,
une vaste
hein,
question.
C'est une vaste question.
Donc, Traverse Vidéo, c'est une association, avant tout, qui organise donc des rencontres internationales, des projections, des expositions avec des installations, des œuvres vidéo. Et donc, l'art vidéo, on peut dire que c'est de la vidéo sans narration qui va plutôt donner au spectateur une place pour l'interprétation et aussi, comment dire, une grande place esthétique. C'est plutôt une expérience artistique en vidéo, c'est-à-dire... C'est comme des tableaux en vidéo, où ça peut être aussi totalement autre chose, quelque chose de plus actuel, contemporain, sur l'actualité, sur comment dire, l'état du monde, pour être très général.
Alors ce soir, le programme de la soirée, ce qu'on peut découvrir ce soir, ce que les spectateurs peuvent découvrir ce soir, il y a des installations, il y en a quelques-unes, j'en compte au moins une bonne douzaine. Il y a aussi une exposition, deux expositions de photographie et il y a deux performances. Une a déjà eu lieu et on en parlera avec l'artiste. Et puis une autre qu'on pourra découvrir en fin d'émission, après l'émission, puisque une performance, évidemment, c'est quelque chose qui se regarde, qui se voit, qui s'entend aussi et qui s'écoute, bien sûr. Alors, j'ai noté dans dans les déclarations d'intention des Traverses Vidéo, l'art a droit à ce qu'on s'inquiète de lui. Hein ? Et l'art autant que tous les domaines de l'humain. C'est-à-dire que l'art, il doit être considéré dans tout ce qu'il est, toutes ses formes, accessible à tous, quoi.
Oui, enfin, l'art permet de traiter tous les sujets, tous les thèmes. En fait, vous avez donc des sujets très politiques, par exemple la guerre en Ukraine, qui sont traités dans une installation avec de la réalité virtuelle par Lisa Berger. Vous avez beaucoup d'installations ou de vidéos qui vont interroger l'intelligence artificielle, qui vont l'utiliser pour créer des nouvelles images, des nouvelles formes de narration, ou encore interroger son sens. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Est-ce réellement une intelligence ou est-ce que ça peut produire de l'art, des formes ?
Est-ce que justement une intelligence artificielle peut remplacer les artistes ?
Pour ma part, moi, j'ai une installation qui ne donne pas de réponse. Et qui donne à voir justement ce que l'intelligence artificielle peut sortir d'actes absolument sans sens. C'est-à-dire de textes, de suites de caractères qui n'ont aucun sens. Et je les donne à une intelligence artificielle qui va retrouver du sens. Au spectateur de décider si ça a du sens ou non.
Et il me semble aussi qu'il y a une installation où il y a un masque de réalité virtuelle.
C'est ça, c'est l'installation qui est en lien avec la guerre en Ukraine de Lisa Berger. Voilà.
Et donc les visiteurs qui sont ce soir pourront être confrontés justement à cette œuvre à travers ce masque.
Oui, voilà, ils peuvent visiter des lieux en Ukraine donc actuels, donc en période de guerre. Voilà. Je peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas encore eu le temps de le tester.
En tout cas, Xavier Pinel, pardon, j'allais vous appeler Cédric, mais Xavier, on est très heureux que vous passiez un moment avec nous. Hein. Votre œuvre, c'est le paradoxe du singe savant.
Oui.
Pourquoi un paradoxe et pourquoi un singe alors, et encore plus savant
ouais. C'est... En fait, c'est une le titre vient d'une proposition mathématique d'un mathématicien français du début du XXe siècle qui s'appelle Émile Borel. Et donc, qui dit, donc c'est un théorème de probabilité, une proposition de probabilité, qui dit qu'en fait, si on donne une machine à écrire à un singe immortel, il finira par écrire tout ce qui a jamais été écrit.
Oui, est-ce qu'il réécrira du Shakespeare, mais voilà, au bout de combien de milliards d'années, quoi.
En tapant
au hasard sur les touches.
Le problème, c'est que le temps qu'il écrit tout ça, notre galaxie aura sûrement disparu depuis belle lurette. Et donc, mon idée, c'était vraiment de je me suis mis dans la peau du singe, donc je suis un primate en tant qu'être humain.
Nous sommes des primates.
Je n'avais pas de chimpanzé pour m'aider, mais apparemment, ils n'arrivent pas trop à écrire sur une machine à écrire. Donc, je me suis mis à écrire des textes sans aucun sens. C'est-à-dire que je me suis interrogé sur où était la proposition artistique, c'est-à-dire j'avais un acte performatif qui n'aurait aucun sens, et ensuite je l'ai donné à manger à une intelligence artificielle en jouant sur des anagrammes sur ce texte qui n'avait vraiment aucune suite logique, en coupant aléatoirement, et je lui ai laissé le privilège du sens.
Comment vous est venue cette idée?
En cherchant des idées.
D'accord.
et alors, vous aviez choisi un singe en particulier, ou le chimpanzé pour
Moi-même.
Ah, c'est vous. Oui, vous avez dit que vous vous mettiez en tant que primate.
En fait,
mais vous pensiez à quel singe? C'est ça ma question. En fait.
Dans le théorème, c'était un chimpanzé ou un bonobo.
Le bonobo.
Voilà.
Le bonobo a la réputation d'être un peu flemmard, non?
Comment?
Un peu flemmard.
Oui, bon, ben là j'ai dû quand même m'activer en tant que...
Alors, on aura l'occasion, Xavier Pinel, de voir votre œuvre pendant toute la durée de l'exposition, au moins jusqu'au 16 mars.
Le réservoir est ouvert aujourd'hui, mais comme il ferme ses portes jusqu'à mercredi prochain. Parce qu'on a une équipe là, on a des vernissages toute la semaine par contre.
Oui.
Donc demain, il faudrait que j'ai un programme sous les yeux, j'ai un peu perdu le fil, mais normalement, je pense que demain, il y a un vernissage à Prépart, rue Bayard.
Oui, c'est ça.
Il y a d'autres événements. Vendredi,
c'est à l'Ensave
et au Cratère, il y a une projection le soir.
Oui.
Samedi, le soir, il y a un vernissage à la Chapelle des Carmélites avec des performances et un concert. Et la journée, il y a une rencontre à la librairie Omblo Blanche. Et par la suite, je sais plus. Ah oui, il y a une projection aussi au musée du Vieux Toulouse. Donc tout est assez central, assez proche, dans des lieux patrimoniaux de la ville. Je conseille à tout le monde de venir. Tout est absolument gratuit. Donc c'est une manière de voir des choses inattendues, une expérience assez
Même si vous n'y connaissez rien en art expérimental,
c'est encore mieux.
C'est encore gratuit. Mieux. Soyez curieux.
Voilà.
On rappelle l'adresse.
Il suffit d'être curieux.
On rappelle l'adresse, 7 rue Garrigou, 31500, c'est l'ancien réservoir de Guy Méry.
Oui, et puis alors il faut aller sur le site de traverse-video.org, il me semble, si je me trompe pas.
Oui, pour avoir toute la programmation.
Traverse-video en minuscule.org, pour avoir toute la programmation.
Oui, et sinon, il y a des programmes papier dans beaucoup de lieux culturels de Toulouse.
Et ils sont fort sympathiques. Comme vous, Xavier Pinel, vous avez essuyé les plâtres. On a eu un peu de mal au début, mais on s'en est sorti.
Oui, j'espère.
Non, vous, parfaitement, c'est nous. Merci beaucoup, Xavier Pinel.
Merci beaucoup et merci aux éditeurs aux visiteurs de l'exposition. Venez nombreux.
N'hésitez pas à venir,
L'art, comme tous les domaines de l'humain, a droit à ce qu'on s'inquiète de lui, à ce qu'on ne le pratique pas, qu'on ne le considère pas, comme s'il était réservé à quelques-uns et quelques-unes. Et inversement, on ne peut s'en le côtoyer. Tout et rien dire. Tout et rien faire.
Thank you.
Nous revoilà toujours en direct depuis l'ancien réservoir Guy Méry, c'est N'oubliez pas l'ouvreuse, et on est à l'ouverture des 28e rencontres internationales Traverse Vidéo. En ce moment, les artistes, les visiteurs déambulent dans cet endroit assez extraordinaire pour découvrir les œuvres, et avec nous, nous en avons deux d'entre eux, après Xavier Pinel qui présentait, et qui présente toujours d'ailleurs, le paradoxe du singe savant, voilà Amaral et Barthes, écoutez le temps. Alors on écoute le temps, mais comment avec vous ?
Alors on écoute le temps avec notre installation qui est composée de multitudes de mécanismes d'horloge qui donnent l'heure, mais qui en même temps joue des rythmiques avec le bruit des secondes.
Alors on est juste à côté, on voit le mur où se trouvent ces horloges, elles sont derrière vous.
Oui.
C'est assez extraordinaire, quand on passe à côté, on les entend fonctionner.
Oui, oui, bien sûr, c'est le but du jeu en fait, c'est d'écouter les petits tic-tac qu'on a l'habitude, sauf qu'au lieu de les entendre de manière régulière, là ça va jouer de manière générative et aléatoire des rythmiques différentes.
Et comment vous est venue cette idée de mettre en scène les horloges ? Parce que finalement, vous les mettez en scène. On écoute le temps.
Alors, au départ, l'idée, c'était de réutiliser ce bruit, le bruit du tic-tac de l'horloge, qui, finalement, lors de l'invention de l'horloge, le bruit du tic-tac, il n'était pas désiré du tout. C'est juste un résidu, parce que quand on produit une horloge, ça fait, le mécanisme fait du bruit. Il n'était pas désiré. Notre idée, c'était de récupérer ce bruit et d'en faire quelque chose, comme finalement, quand on produit une œuvre à partir de déchets de tous les jours.
Et toutes ces horloges sont identiques. Comment vous avez fait ? C'est vous qui les avez conçues ?
Oui, on a conçu, on a réalisé le système entièrement. Donc là, ici, on présente, il y a 56 horloges.
Oui.
Elles sont disposées donc sur un grand mur blanc. Et chacune est reliée par un petit fil qui va jusqu'à un système de contrôle informatique qu'on a programmé. Et donc on s'est procuré des horloges, on a rajouté les aiguilles et puis on a modifié les horloges pour avec un petit fil pouvoir déclencher le tic-tac au lieu qu'il soit déclenché par le mécanisme de l'horloge habituellement toutes les secondes.
Oui.
On l'a modifié pour que ça soit notre mécanisme qui lui va déclencher le tic-tac finalement. Comme un musicien de jazz va improviser la musique, il va taper sur une grosse caisse ou va taper sur une cymbale. Ici, c'est le système informatique qui va déclencher une horloge ou on va déclencher une autre, ou on va déclencher plusieurs en même temps.
Ah, c'est beaucoup plus, inventif et beaucoup plus créatif qu'un simple métronome.
Ah oui, oui, puisque le métronome, il va donner c'est une base de temps qui est toujours à la même cadence, quoi. Et ici, en fait, nous, on a modifié les horloges de manière à ce qu'elles vont faire les secondes, enfin, elles vont faire le tic-tac à n'importe quel moment. Et donc, à n'importe quel moment, comme finalement un batteur de jazz va taper sur ses percussions à un moment ou à un autre.
Pourquoi 56 horloges ?
Pardon ?
Pourquoi 56 ?
Alors ici, on en a mis 56. En fait, c'est une installation in situ, donc qui s'adapte au lieu. Et ici, donc, on s'est adapté à la surface, à ce grand mur blanc, à la surface qu'on avait, et on l'a habillé donc d'un grand nombre. Alors, on essaye d'en mettre beaucoup pour pouvoir faire des rythmes les plus variés possibles. Parce que plus il y en a, évidemment, comme dans un orchestre, plus il y a d'instruments, plus on peut jouer des choses différentes. Et donc, c'est in situ, on s'adapte à la dimension. Donc, quand on a un lieu plus grand, on va en mettre plus. On est allé jusqu'à 136, et puis quand c'est plus petit, on en met moins.
D'accord.
En tout cas, Amaral et Barthes. Amaral, c'est vous. C'est lui.
Donc, je suis Michel Amaral. Et,
Audrey Barthes.
Merci à tous les deux et merci, on vient voir votre mur d'horloge qui est extraordinaire.
Et écoutez.
Et l'écouter surtout.
L'écouter, oui.
Puisqu'on écoute le temps. Merci à vous deux. Temps.
Merci à vous.
mot dans cet ancien réservoir Guimery. J'arrête pas de le dire, mais c'est assez extraordinaire,
oui,
Laurent.
C'est là où nous sommes, oui, oui, Marie, c'est... vous confirmez. 7 rue Garrigou, 31-500 Toulouse.
Oui, vous pouvez venir nous
voir. Pour une heure
nous,
encore.
Pour une heure encore, on est là, mais l'exposition reste, elle ne va pas s'arrêter après 20h. Laurent, on n'a pas parlé du contenu du panier de l'ouvreuse, néanmoins, ce soir, on va quand même parler des films de la semaine.
Oui.
Je vous laisse faire, Laurent.
Allez, comme d'habitude, à l'affiche cette semaine, le nouveau film d'Enya Barou, le premier film d'Enya Barou, c'est « On ira ». C'est l'histoire de Marie, 80 ans, qui en aura la bol de sa maladie. Elle a un plan pour partir en Suisse, pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils plutôt irresponsable, et Anna, sa petite fille en crise d'adolescence, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, lui, qui est un aide-soignant tout juste rencontré la veille, va prendre le volant au vieux d'un camping-car familial et conduire cette famille dans un voyage inattendu. Alors après la chambre d'à côté d'Almodovar, où le dernier souffle de Costa Gavras, la mort et plus précisément la manière de vivre ou provoquer la dernière ligne droite de son existence apparaît comme la thématique de ce début 2025, car voilà que pour son premier long métrage, Enya Barou a choisi elle aussi d'arpenter ce terrain, mais sous un autre angle bien plus difficile, celui de la comédie. Même si rien ne prête pourtant spontanément un sourire devant la situation de son héroïne, une octogénaire donc dévorée par un cancer devenu incurable, qui a donc décidé de partir en Suisse, elle prend ce biais-là pour celui de la comédie, pour parler de ce sujet difficile. L'influence revendiquée et pleinement assumée de Little Miss Sunshine, rappelez-vous, hein, ce voyage,
oui,
ce road movie en minibus,
oui, oui, oui.
Là, c'est pleinement revendiqué. Donc c'est un road movie, à l'écriture finement ciselée, tant dans la gestion maligne des quiproquos que son talent a trouvé à chaque fois d'une manière différente de clore les différentes sous-intrigues qui peuplent ce récit. Alors, le point principal de ce film, c'est l'incommunicabilité entre le père et sa fille, entre le père et la grand-mère, et puis la grand-mère parfois et la fille. C'est un thème vraiment d'actualité. Il y a un équilibre entre les rires et les larmes, qui ne paraît jamais ici artificiel, à l'image de l'interprétation tout en finesse de son quatuor d'interprètes Hélène Vincent, toujours formidable, Juliette Gasquet, Pierre Lotin et David Alaya. La comédie française devra encore compter avec Enya Barou. Petite revue de presse. Sur ce film, Enya Barou parvient à faire advenir ce petit miracle de nous faire rire avec la mort, avec une histoire qui ne parle que de la vie, selon Première. West France a bien aimé aussi une réussite portée par un casting de choix. Petit bémol pour les fiches du cinéma, un ton de comédie plaqué et une mise en scène minimale qui affadissent la complexité du projet. À voir, à lire, à moins aimer aussi. Un road movie familial sous couvert du désir d'une femme malade d'en finir avec la vie qui n'échappe pas au poncif du mélodrame et du rire creux. À l'affiche aussi cette semaine, beaucoup de sorties. On pourra voir Délocalisé d'Ali Bougueraba et Redouane Bougueraba. C'est l'histoire d'une usine délocalisée en Inde. Alors que feront les salariés? On peut voir aussi Rennes-Mer de Manel Labidi avec Camélia Jordania, Vers un pays inconnu de Maddy Fleffel qu'on peut voir au VO à Muret ou à l'American Cosmograph. On peut voir aussi La Convocation d'Alfdan Tondel au Grand Palais à Cahors, Parthénope de Paolo Sorrentino, on peut voir au Régent à Saint-Gaudens ou à l'ABC à Toulouse, Berlin était 42 d'Andreas Dresen qu'on peut voir à l'Utopie à Bordeaux Rouge ou Tournefeuille, The Insider, le nouveau film de Steven Soderbergh, un thriller avec Cate Blanchett et Michael Fassbender. On peut voir aussi The Last Showgirl de Gia Coppola ou Patty Wilson à Toulouse. On peut voir aussi Black Box Diaries de Shiori Ito à l'American Cosmograph. Pour les plus petits, on peut voir Burke qui a eu le César en 2025 du meilleur court d'animation dans un programme de 5 cours. On peut voir ça à l'American Cosmograph. Et pour finir, on peut voir Dounia, le grand pays blanc, un film d'animation des 6 ans d'André Cady. On peut le voir au CGR à Montauban ou à l'ABC à Toulouse.
Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage. Voyage.
Interprète Voyage, Voyage, un titre qu'on peut entendre dans le film d'Enya Barrou. On ira, c'est normal, on voyage, et c'est normal qu'il y ait des accents gypsy puisqu'ils vont croiser des gitans dans leur périple jusqu'en Suisse. Et on continue, on reste bien sûr dans ce fabuleux endroit qui est l'ancien réservoir Guillemery, et avec nous tout de suite, j'en perds mes notes,
un nouvel invité
qui s'appelle Franck Brudilleux, pardon. Oui. Bonsoir Franck.
Oui, bonsoir, merci. Bonsoir.
Alors vous êtes un photographe, il y en a deux qui exposent ce soir.
Oui, j'ai deux expositions dans le cadre du festival.
Voilà. Et celle de ce soir, c'est les fragments d'âme.
Oui.
Alors le concept est assez extraordinaire, original, je ne sais pas comment le qualifier. Il est hors du commun. Dites-nous ce que vous avez fait pour faire ces planches, oui, qui sont extraordinaires, ces photos qui sont extraordinaires.
Disons que je suis parti du constat que les images de nos grands-parents nous parlent parce qu'il y a de l'affection, il y a un côté affectif. On a connu normalement nos grands-parents. Par contre, nos arrière-grands-parents, là, il ne reste souvent qu'une seule image qui est emblématique de la personne. Et à partir de ça, je me suis dit comment les faire revivre, ces gens, dans les lieux qu'ils ont vécu. J'ai profité de mes voyages en Occitanie pendant l'opération Euro pour faire une découverte un peu anthropologique, c'est-à-dire que j'arrivais dans des villes que je connaissais pas forcément, et je m'appliquais un petit protocole, c'est-à-dire que la première heure, pendant une heure, j'allais au cimetière et je photographiais les médaillons. Donc de gens qui sont décédés il y a plus de 100 ans à peu près, et ensuite, donc il y avait déjà ces images-là représentées, celles qui ont été choisies représentaient la personne vraiment. Donc il y avait une force dans ces images qui était troublante même pour moi. Et ensuite, à travers mes pérégrinations dans la ville, c'est pour ça que j'aimais ne pas la reconnaître à l'avance, je photographiais ce qui me surprenait, un pan de mur, tout événement, toute architecture, et ensuite, donc là, ça me prenait l'après-midi, et lors de mon retour en train, donc c'était des images photographiées avec un vieil appareil numérique qui permet d'associer deux images, et je voulais profiter aussi de ce moment, je dirais, d'excitation et de découverte. Parce que pendant mon retour en train, j'associais, et pour moi c'était ça aussi l'intéressant, c'était comme un tirage photo, la découverte d'un tirage photo. J'associais un portrait et une forme, et l'association des deux était paradoxalement une découverte, c'est-à-dire que rien n'est prédéterminé à l'avance, donc il y a l'accident qui rentre en compte aussi. C'est pour ça que je parle l'accident surréaliste, et à travers ça, au fil des villes traversées, je me suis rendu compte que j'interrogeais différentes histoires. Donc, à travers la micro-histoire de la personne que je remettais au niveau de la ville où elle avait vécu, en tout cas où elle avait décidé de mourir, ou en tout cas où elle était enterrée, et j'interrogeais aussi l'histoire locale de la photographie, parce qu'en fin de compte, il y a des cimetières où il y a beaucoup de photographies, d'autres beaucoup moins. Parce que ça dépend souvent de l'artisan photographe qui était implanté localement. Et en même temps, ça interroge aussi, à travers mes constats à Collioure notamment, la grande histoire, à travers les réfugiés espagnols, à travers les guerres. Et donc voilà, et tout ça, c'est quand même... C'est interrogé, mais l'histoire, mais fictionnée, c'est-à-dire que derrière ça, je n'ai relevé aucun nom. Dans mes légendes qui sont mises autour des photos, c'est tout est extrait de l'imagination, et c'est lié à l'accident d'association des deux images, de la forme de la ville, des objets et du portrait. Et l'association des deux crée une autre image, une autre découverte qui provoque une autre fiction. Qui provoque un autre niveau de lecture. Voilà.
C'est une démarche assez je l'ai déjà dit, extraordinaire, remarquable, parce que j'ai eu l'occasion de voir certaines de vos photos. On a l'impression que ces photos, quand vous les avez prises, c'était... Vous avez pris cette photo-là. Est-ce que j'ai l'impression que ce qu'on voit sur la photo, vous avez déclenché, vous avez eu ça. C'est-à-dire qu'on sent tout ce que vous nous avez raconté, cette façon d'élaborer la photo, tout ça. Eh bien, on n'a pas besoin finalement de. Si, on a besoin de le savoir. Mais ce que je voulais dire, finalement, on est émerveillé par ce qu'on voit, sans se poser la question de savoir ce qui s'est passé et la façon dont vous avez procédé.
Ouais, C'est pour ça que je m'attache à le faire dans l'instant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une énergie qui soit là. C'est-à-dire que je refais jamais deux fois le même lieu. Je le fais une fois parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc j'ai envie de découvrir ces portraits, découvrir la ville et que ça provoque une émotion en moi, mais que je maîtrise pas. Je maîtrise pas. C'est une association qui est complètement formelle, qui est liée à l'accident. Et c'est pour moi, je l'apparente vraiment à l'écriture automatique des surréalistes, c'est-à-dire
ah
que
oui. L'Oulipo.
Voilà, c'est-à-dire que il y a pas d'esthétique surréaliste. Il y a, pour moi, ce qu'on définit surréalisme, c'est plutôt l'accident. Et je suis là-dedans, c'est-à-dire que il y a une énergie au moment de la prise de vue et au moment de l'association des images, et qui m'interdisent de le faire une seconde fois. Ça m'intéresserait plus.
Sûr.
Voilà.
Vous êtes une sorte de chasseur de fantômes. Parce que quand on voit les photos, on a l'impression, en effet, c'est le titre d'ailleurs de l'œuvre, Fantômes intimes, de voir des fantômes. Ce sont de très belles photos en noir et blanc d'ailleurs.
Ouais, ouais. C'est des fantômes, mais en même temps, qui sont extrêmement présents.
Voilà, vous les faites renaître en quelque sorte.
Voilà, c'est lié à ces portraits qui m'ont vraiment le choix dans les images. Les gens présentés sont vraiment très forts. Et il faut avouer que des images qui a plus de 100 ans, c'était des artisans photographes, c'était des images qui étaient faites au moyen format, donc de très grande qualité, et qui sont dont l'émotion est extrêmement forte. Et,
oui,
c'est, mais... et cette association, pour moi, la force vient un petit peu lorsqu'on fait du reportage. Quand on fait du reportage, malgré tout, c'est les premiers moments qui sont plus importants. C'est un peu comme vous allez en vacances. Si vous allez la première fois à New York, malgré que vous l'ayez vu plein de fois, y a quand même... Ça résonne en vous. Entre ce que vous voyez, les films que vous avez pu voir, ça résonne à différents niveaux. Et malgré tout, au bout de la dixième fois, c'est plus du tout le cas. C'est la première fois que les choses se passent.
Oui.
Et donc moi, c'est un peu là-dessus, sur cette énergie. Et en même temps, je me dis, à travers, moi, je pensais aussi à ma propre famille. Moi, de mon arrière-grand-père, mes deux arrière-grands-pères, il n'y a qu'une seule photo avant de partir à la guerre en uniforme. Il n'y a que ça qui reste d'eux.
Mais alors, on est face à vos œuvres. Comment vaut-il mieux les découvrir, les voir là, accrochés, ou bien découvrir, comme on l'a sous les yeux, ce magnifique livre que vous avez fait avec certaines d'entre elles? Quel est, à votre avis, avec quel support on aura le plus grand choc?
Disons que l'exposition a porté que je...
Par rapport à ce que vous disiez sur le fait de le découvrir instantanément, après ça s'estompe là.
Oui, c'est la première fois, quoi.
C'est la première fois.
Voilà.
Première vue.
Alors dans l'exposition, la différence du livre, c'est que je rajoute une strate supplémentaire à travers une histoire qui est tout autour du cadre, où je pars d'une caractéristique de la personne, du lieu, et à travers ça, il y a une histoire qui est fictionnée, qui a été écrite tout autour du cadre. Donc c'est l'apport, je dirais, vu le retour que j'ai jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que ça fonctionne. Parce que les gens m'ont... Et je suis premier surpris, parce que moi, franchement, les images, je les fais parce que ça me... Parce que j'ai une certaine envie de les faire. Parce que pour la création, un film et tout ça, il faut en avoir envie.
Oui.
Et une nécessité. Et une fois qu'on l'a fait, quelque part, les choses sont terminées. Et ça ne m'appartient plus.
C'est... Votre démarche est, je ne sais pas trouver le qualificatif sensationnel. En fait, c'est quelque chose fois quand on découvre ces œuvres, c'est quelque chose de formidable. Laurent.
Oui, je voulais savoir rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Vous avez toujours été photographe, c'est pas votre première série?
Ah, j'ai fait d'autres séries, mais j'ai une activité professionnelle à côté. Hein. J'ai toujours fait ça. En fin de compte, en photographie, je fais de la photographie depuis très longtemps.
Oui.
Mais il faut que je fonctionne au coup de cœur. C'est-à-dire que il faut que j'ai pas envie de photographier des tablettes de chocolat toute la journée ou de faire du commercial. Moi, toutes les expériences que j'ai pu faire, c'est que par exemple à Toulouse, dans une exposition, il y a une étudiante biélorusse qui m'a demandé, via une association biélorusse, donc il y a maintenant 7-8 ans, qui m'a demandé à partir en Biélorussie. Je suis parti chez dans sa famille à Noël pour faire un portrait de la ville de Brest-Istov, qu'on a exposé ensuite à Toulouse. Mais ça m'a amusé de le faire parce que c'était extraordinaire. Pour moi, c'est une expérience de vie. Pour moi, la photographie, c'est une expérience de vie. Il faut que ça m'apporte quelque chose en tant que moment à vivre. Voilà.
Eh ben, en tout cas, cette expérience, on peut la partager en ce moment, et on a beaucoup de chance, Franck Budrieux, de voir vos photos. À l'ancien réservoir Guillemery, venez les voir et ne les manquez pas. L'adresse, 7 rue Garrigou.
7 rue Garrigou.
Et donnez-nous vos nouvelles, puisque vous partez au bout du monde quand vous revenez. Passez-nous voir, Franck.
Pas de problème. Merci.
Merci.
Merci. Merci.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me.
Vous l'avez reconnu, c'est Rita Hayworth qui chante Put the Blame On. Et c'est extraordinaire.
Je n'ai pas le retour, donc.
Oui, oui, c'est vrai, vous me croyez sur parole, vous me croyez sur parole, vous entendez juste. Oui, 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 c'est Rita Hayworth qu'on entend, qui chante Gilda, cette scène extraordinaire du film de Charles Vidor. Cette scène qui est plus sensuelle encore que le striptease le plus torride, elle ne fait qu'enlever ses gants.
C'est grand, ouais. Et c'est en descendant l'escalier en plus.
Ouais, c'est 1946, ouais. Une façon de détourner le code Haynes. Gilda, alors le film, on peut le voir dans le cadre... il faut que je retrouve mes notes parce que c'est pas facile. On peut le voir à la Cinémathèque hors les murs. Là, c'est aux abattoirs. Nous sommes partenaires de cette programmation. C'est Film Noir, Gilda, de Charles Vidor. C'est samedi 15 mars à 18h. Et puis, vous irez la veille toujours au musée des abattoirs de Toulouse pour voir Mean Street, toujours dans le cadre de Film Noir. Là, c'est le film de Scorsese. La première fois que De Niro et Harvey Keitel jouaient ensemble.
Oui, c'est vrai.
Ils étaient tout jeunes. Peu de temps après, enfin 3 ans après, il y a eu Taxi Driver qui a bombardé, propulsé
Scorsese et De Niro.
Et De Niro au firmament des stars. On continue rapidement notre tour d'horizon des films à voir sur grand écran avec à La Beige. Lundi 17 mars à 21h, Drive de Nicolas Winding Refn pour découvrir le conducteur. C'est que comme ça qu'on le connaît, incarné par Ryan Gosling, qui le jour travaille dans un petit garage, qui fait aussi quelques cascades pour le cinéma, mais surtout la nuit, il conduit pour des malfaiteurs.
Pour des truands. Ouais. Excellent film.
Extraordinaire. Le film à voir donc au Pâté La Beige, lundi à 21h. Vous irez sinon à Wilson, à moins de perdre la mémoire, vous allez comprendre pourquoi. Memento de Christopher Nolan, comment on perd la mémoire.
L'utilisation excessive des post-it pour se rappeler de ce qu'on fait.
Oui, alors un appareil photo instantané et des tatouages pour se souvenir de ce qu'on fait
aussi,
et arriver à retrouver celui qui aurait tué sa femme. Puisque le personnage central de ce film, il a pris un coup sur la tête et ça lui a fait beaucoup de mal à la mémoire. Et puis, à Rodez, dans leur plan culte, c'est le cas de le dire cette fois-ci, mardi 18 mars à 20h, c'est The Big Lebowski. Plus à présenter, extraordinaire, Joël et Ethan Cohen. Et au VO de Muret, Vous pouvez voir dans le cadre de la séance patrimoine dimanche 16 mars, proposée dans le cadre du Festival Ciné Latino, avec présentation et conférence de Cédric Lépine, Les Neuf Reines, un film de Fabian Bielinski de 2000 avec le magnifique, le gigantissime Ricardo Darín. Et puis à Utopia Bordeaux Rouge, un film à ne pas manquer de 1963, Jason et les Argonautes. Le film est programmé toute la semaine dans le cadre de la semaine de l'Antiquité. Voilà pour le grand écran, pour le petit c'est avec vous Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir mercredi sur C-Star à 21h avec Total Recall de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger. Un scénario astucieux, une réalisation percutante et des effets spéciaux étonnants pour un film haletant et spectaculaire. Vendredi sur France 5 à 21h, on pourra revoir Le Ridicule de Patrice Lecomte avec Charles Berling et Jean Rochefort. Alors que la monarchie française vit ses derniers jours, un jeune noble, naïf et passionné, décide de faire part au roi de ses projets d'assainissement démarrés de sa région natale. Servi par un casting formidable, une comédie brillante où Patrice Lecomte fustige avec brio la futilité et l'arrogance. Et puis lundi sur W9 à 21h, ce sera Stillwater de Tom McCarthy avec Matt Damon et Camille Cotin. Histoire de Will, un Américain qui sera à Marseille pour y retrouver sa fille Allison, condamnée à 9 ans de prison. Sur place, l'Américain est seul et ne parle pas un mot de français. Il va pouvoir compter sur l'aide de Virginie. Un film tout en nuances, à mi-chemin entre le drame et le thriller, dans un Marseille très bien filmé. Le conseil de lecture sera pour les tout-petits. C'est vrai qu'on y pense peu, mais il faut les initier parfois au cinéma. Et ce sera donc Le Cinéma dans la collection Mes Petits Docs de 4 à 7 ans. Un livre de Stéphanie Ledu et Camille Roy. Ce même petit doc sur le cinéma fait découvrir aux enfants l'expérience du cinéma, ses métiers et ses secrets de tournage. 8€ aux éditions Milan. Voilà pour le cinéma, la télévision, cette semaine.
Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ?
Il fallait un petit bout de la bande originale de Drive. Ça convient bien au lieu, même si les voitures du conducteur ne pourraient pas rentrer ici. Mais en tout cas, on avait envie de l'écouter avec nous. On va découvrir dans quelques minutes, un peu après 20h, leur performance. Avec nous, c'est Zone de Retournement. C'est intriguant comme nom, Zone de Retournement. Hein, c'est quoi, Zone de Retournement ? C'est un collectif ou c'est l'endroit où on fait demi-tour ?
Alors, d'abord, bonjour, merci de nous recevoir.
Oui, c'est vrai, on n'a pas le temps de se présenter, Christophe Queval, et avec vous, Christophe.
Alors, j'ai Julie Barrère qui est là, Justine Bergogne qui est là avec moi, et Théo Moine. On est un collectif, alors il y a aussi Célia qui n'est pas là, et on est un collectif, on va dire, pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, notamment la performance qu'on va présenter ce soir, elle implique de la vidéo, de l'art scénique et puis de l'écriture du texte, quoi.
Depuis qu'on a commencé nos conversations avec les différents artistes, on se rend compte que l'art expérimental est multiforme et vous en regroupez pas mal. Oui. Comme ça, on fait un habile résumé grâce à vous.
C'est un peu ça, oui. On est un petit. Oui, on est la conclusion peut-être.
Non, ou la conclusion non, le fédérateur plutôt. Oui. Alors dans ce qu'on va voir, j'ai cru comprendre que il y a le thème de la rencontre, c'est ce que vous développiez dans votre performance.
Oui, voilà. Alors, je suis pas le mieux placé pour en parler, puisqu'en fait, c'est sur la base d'une écriture d'autofiction qui a été initiée par Théo. Et de sa rencontre avec son compagnon, et de là est partie une idée de raconter, mais chacun avec sa discipline et chacun avec ses mots et ses images, sans vraiment de consultation auparavant. C'est-à-dire que chacun fait son truc de son côté et on a tout réuni pour voir ce que ça donnait, et finalement tout s'est un peu imbriqué de manière très naturelle, et voilà, et ça donnera la performance que vous allez voir.
Et alors, cette performance, ça m'intrigue. Comment intervenez-vous tous ensemble dans la performance ?
Comment on intervient ?
Oui.
Alors, physiquement parlant.
Physiquement parlant.
Physiquement parlant, pour ma part, c'est la partie vidéo, donc elle est déjà faite. Je suis un peu tranquille ce soir. Même si la technique, c'est toujours compliqué, on sait. On ne vous apprend rien.
Vous gommez le track, comme ça.
Voilà. Le texte a été préenregistré. Donc ça, du côté du texte qu'a écrit Julie, on est tranquille. Et c'est Théo qui sera sur scène et Justine qui vont... vous allez voir, faire interagir aussi le public, hein, et on va les faire participer un petit peu, et il y aura une petite interaction avec la vidéo. Voilà, j'en dis pas plus.
Comment avez-vous écrit, Julie ?
Comment j'ai écrit ?
Oui, alors, votre inspiration.
En fait, donc comme le disait Christophe, on est parti de la rencontre de Théo avec son compagnon, et comme on est quand même, on est très proches tous, on est amis, hein, aussi, c'est pour ça qu'on a fondé ce collectif. Et donc en fait, moi, ce que Théo m'a proposé, c'est: est-ce que ça te dit d'écrire à partir de ma rencontre avec Axel, c'est le nom de son compagnon,
oui,
et de ce dont toi tu te rappelles, en fictionnalisant aussi. Donc c'est-à-dire, il m'a dit, tu peux faire, tu peux faire ce que tu veux à partir des éléments que t'as, de souvenirs ou même de trucs de toi, quoi. Enfin, ça pouvait très bien être aussi de l'autofiction à partir de ma vie, de ma représentation. Du coup, j'ai écrit un petit texte. Et comme moi, je travaillais sur le son à l'époque. Enfin, moi, j'ai fait de la création sonore, etc. Je me suis dit que c'était aussi pas mal de l'enregistrer, hein, ce texte, et qu'il soit retransmis pendant la performance. Et que du coup, ça crée aussi un décentrement par rapport à Théo, qui lui est sur scène. Et dont on pourrait penser que c'est son texte, alors qu'en réalité c'est une œuvre collective, quoi. C'est en gros partir du réel pour en faire de la fiction.
Vous l'interprétez, le texte, ce qu'on va entendre.
Moi, je le lis, ouais, enregistré.
C'est-à-dire, j'essaye d'être clair. Est-ce que il y a une forme d'affect dans ce que vous dites?
Oui, enfin, il y a eu de l'affect à l'écriture. Après, moi, quand je l'ai enregistré chez moi, donc je l'ai enregistré avec mon Zoom, voilà, c'est artisanal, quoi. C'est pas une lecture plate. Enfin,
voilà.
J'essaye quand même d'en faire un truc un peu théâtralisé, non, bien que ça soit pas...
ça pourrait être un concept.
Jouer non plus, ça pourrait.
Mais ouais, ça ne l'est pas.
Moi, la notion d'enregistrement, elle vient après. C'est-à-dire que j'ai pas pensé une notion de jeu, quoi. J'ai vraiment écrit un texte pour penser une action performative sur scène de la part de Théo, et l'idée de l'enregistrer et de le retransmettre, en fait, on l'a décidé que plus tard. On se disait peut-être qu'il sera imprégné simplement dans le corps, peut-être que... et puis finalement on s'est dit, bah non, autant l'enregistrer et le mêler à la musique, hein, qui est réalisée par Sébastien, qui a fait la musique. Donc c'est une personne proche de Théo aussi qui a fait la musique sur le même principe, hein, donc à partir de cette rencontre de son côté, et après on joint tout.
Et Théo.
Hein ?
Oui.
Alors, vous, c'est celui qu'on voit. En fait, vous êtes celui qu'on voit.
Le performeur.
Le performeur de la performance.
Oui, si on veut. C'est vrai que je suis avec Justine Bergon sur scène. Ce qui est important pour moi, puisque bon, ça part vraiment d'un projet d'écriture qui s'appelle Aise, dont une première partie a été mise en scène en performance en 2023, La Nuit des Fauves. Et c'est tiré en fait d'un recueil de poèmes que j'ai écrit suite à la rencontre avec mon compagnon. Et la première performance que j'avais réalisée, c'était vraiment mon texte qui était enregistré, vraiment quelque chose de très autobiographique. Et je voulais vraiment décaler le point de vue, comme l'a dit Julie et Christophe, mais en conservant vraiment cette présence sur scène, ma présence, et donc de moi venir dialoguer, réagir à la fois avec le public et en même temps avec les propositions vidéo et sonores faites par Bastien, Christophe et Julie. Donc il y a vraiment cette idée d'un dialogue, d'une circulation, et puis aussi d'une part d'imprévu, hein, oui, puisqu'on est dans la performance. Donc moi, je ne parle pas, mais je transmets, voilà, on peut le dire, hein, je transmets des parties épistolaires d'échanges que j'ai eu avec mon compagnon au début de notre rencontre, qui sont écrits sur des petits mots qui vont être diffusés au public. Voilà.
Ah, on est impatients de lire.
Ah oui.
Ouais.
Ouais.
C'est
à quelle heure la performance?
C'est dans 10 minutes.
Oui, dans 10 minutes.
Venez vite, alors,
juste après l'émission.
Voilà,
venez
juste
vite.
Après.
Merci Théo.
Merci beaucoup.
C'est le collectif, on le redit, Zone de retournement. Allez, les artistes passent, se poussent, ne se bousculent pas. Et avec nous, qui êtes-vous?
Alors, Enzo Karamitros, je suis plasticien.
Et alors, qu'est-ce que vous présentez ce soir?
Alors, je présente une installation vidéo. J'appelle ça, dans un espace assez réduit, un placard, en fin de compte. Je travaille l'image, je recherche, en fin de compte, des morceaux d'image que je vais capturer sur des écrans ou que je filme. En fin de compte, la démarche, c'est surtout que je me pose la question de savoir d'où viennent ces images, d'où le son vient. Et c'est une réflexion, en fin de compte. C'est une réflexion sur ce qu'on écoute et ce qu'on regarde. Parce qu'actuellement, on a tellement de surinformations qu'on ne se pose même plus la question.
Oui, oui, bien sûr. Et alors, j'ai vu... le titre de votre...
Il n'y a pas de titre.
Voilà, c'est sans titre.
C'est sans titre. Voilà.
C'est le titre.
Voilà, c'est le titre sans titre. Voilà. Non, je ne donne pas de titre parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi que les gens s'approprient l'espace de vision et qu'ils fassent leur propre démarche.
Et à quel moment, en fait, vous livrez ce que vous faites? Vous livrez ce que vous faites, ce que vous trouvez, ce que vous imaginez. Et vous avez quel sentiment quand vous voyez le public face à votre œuvre?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je mets en scène et ce que le public voit est deux choses différentes. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est que l'image, au départ, raconte une histoire. Cette histoire, moi, je la connais, mais je suis le seul à la connaître. Et je vais redonner une autre histoire à cette image. Et les spectateurs vont la retranscrire encore différemment. En fin de compte, sur plusieurs formats, c'est ça qui est vraiment intéressant.
Et l'histoire, vous l'imaginez comment?
En fin de compte, c'est spontané. Mon travail est que spontané. C'est des recherches d'images, des recherches de photos, tout ça. Et c'est vraiment spontané. J'ai tout un stock d'images que je mets dans mon ordinateur, et puis au fur et à mesure je les cherche, je les retravaille. D'accord. Et à un moment il y a une correspondance des deux images qui peuvent se faire comme la photo. Je fais de la photo ou je fais du volume de la sculpture, voilà. Et à un moment il y a une correspondance qui se fait, c'est comme un rapport avec les individus.
Et comment vous mettez le son? Vous mettez du son?
Le son, en fin de compte, il est très brut. Par exemple, je peux travailler une image et la défractionner. Et en même temps, le son va suivre l'image. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant, je vais garder ce son-là parce que ça va correspondre avec ce que je veux faire. Mais vraiment, c'est que tout le travail est aléatoire. Il n'y a pas de recherche précise. Je me laisse guider par l'image, par ce qu'elle va me donner à manger, on va dire, et à pouvoir faire un montage. Voilà. Et il n'y a pratiquement pas de montage. C'est très brut ce que je fais.
Est-ce que la perception varie suivant le lieu où vous le proposez ici? C'est un lieu très particulier. Est-ce que ça... le lieu a une importance pour vous,
non,
pour présenter?
Non, pas du tout. Non, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Je travaille vraiment en fonction de comment moi je perçois ce que je fais. Voilà. Après, je m'adapte au lieu, puis voilà.
Merci, Enzo Karamitros. Votre œuvre n'a pas de titre. On va y aller, on va foncer. Voilà.
On invite tous les auditeurs à venir.
Je vous invite à venir voir.
Merci, Enzo Karamitros. Pas de temps mort, oui. Aucun temps mort. Un artiste chasse l'autre, un artiste s'en va, un autre revient. Alors, Amélia Sampaio est avec nous. Sa performance, on a pu la découvrir avec elle. Alors, il faut le signaler, Amélia Sampaio. Sampaio vient du Brésil, je vais y arriver. Elle est accompagnée par Philippe Michelon, son époux. Son compagnon, on ne va pas rentrer dans les détails, de toute façon ça ne nous regarde pas. Et Amélia Sampaio a fait une performance assez extraordinaire, puisque avant que ne commence, ne s'ouvre les festivités, l'exposition, elle était au milieu de cette pièce, enroulée dans du fil de fer barbelé, et il fallait que les visiteurs la libèrent. Comment vous est venue cette idée, Amélia?
Oui, je pense que la liberté, c'est une situation de collectif
qui ma liberté dépend de la liberté de l'autre. Donc, les barbelés sont fils. Les barbelés, c'est crié pour première, pour prendre les vaches, garder les vaches.
Oui, c'est ça.
Et après,
le bétail.
Exactement. Et après, l'homme changeait sa tête, changeait sa idée, sa pensée, et mettre les trinchères, mettre pour toutes les places pour la propriété, pour éviter les migrants, pour éviter toutes les situations. Et aujourd'hui, c'est nécessaire que nous pensions à la liberté de l'autre et à notre liberté. Donc, je pense que mon travail parle sur ça, parle de que ma liberté dépend que l'autre pense sur la propre liberté et l'empathie pour me libérer.
Oui. Oui, parce qu'il en fallait bien. On n'osait pas non plus. Je vous dis que moi, j'ai pas osé. J'avais peur de vous faire mal.
Oui.
J'imagine. Moi aussi, je suis très énervée. Et pour plus longtemps longtemps que se passe, je me sens plus anxieuse que les gens comprennent l'essence de l'empathie, l'essence de lutter pour la liberté ensemble.
C'était dans votre performance, ce qui est remarquable, c'est que du début à la fin, vous ne changez pas d'attitude, de comportement. Votre visage est amimique, impassible. C'est difficile, ça, à faire au milieu de tout ça, avec du fil de fer barbelé autour de soi.
Oui, c'est très difficile. Je suis finie, mais complètement...
Mais est-ce que vous allez refaire la performance ou c'était une seule fois?
Oui, j'ai déjà fait à Venise, à Avignon, à Villefranche. Et si je veux faire... Ici, je ferai l'autre performance. Bordeaux, c'est à Batoir.
Oui.
Oui, et c'est le dimanche 16 à 13h, 13h30, commencera. Et c'est l'autre type de travail. Je parle sur la résilience, sur la force de se réinventer, c'est le courage de vivre la douleur, mais c'est réinventer sa histoire.
Merci, Amélia Sampaio.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, Philippe. C'était remarquable. Merci encore.
Merci et vraiment.
On va se quitter, mais on écoute un peu de musique. Laurent, le moment est venu de dire au revoir. Dites au revoir avec nous, Simone. Vous avez 10 secondes pour parler. Merci de nous avoir accueillis, Simone.
Et ça continue, les jours à venir, et Amalia à nouveau, etc. Prenez notre programme, traverse-video.org, et je suis ravie d'avoir laissé la place aux artistes.
Merci, Simone.
Merci, Simone.
Merci de nous avoir reçus. Merci, Yannick, d'avoir été là. Merci à vous, cher
merci
Laurent.
Merci, Marie.
Et on se retrouve la semaine prochaine, ce sera plus calme.
Dans les studios.
Va-t-on s'y habituer ? Parce qu'on était bien finalement ici. Oui. C'était assez extraordinaire. Merci Yannick et restez fidèles à la présence. Salut, à la semaine prochaine à 20h. Nathalie Cardon, salut.